Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 29 juillet. La torchère de Fezin, une colonne de fumée noire s'échappait dans le ciel. C'était cette nuit, un dégagement visible à des kilomètres à la ronde. Un incident précédent s'était déjà produit le 9 juillet dernier. La CGT a appelé à la grève hier les employés de cette même raffinerie de Fezin. Le syndicat demande une hausse de salaire pour compenser l'inflation. Prévu pour accueillir des mères isolées et leurs enfants en situation d'urgence, le centre d'hébergement de Rieux-la-Pape doit fermer dimanche. Forum Réfugiés et Handicap International fête leurs 40 ans d'action humanitaire au Théâtre Romain de Fourvière dimanche. Xavier Ducret, directeur France d'Handicap International, sera notre invité. Les Jeux Olympiques 2024, l'équipe de France féminine jouera à Saint-Étienne et à Lyon. Le Louvre perd pour 6 mois son pilier Demba Bamba. Et puis un pique-nique géant pour les célibataires, c'est au Parc de la Tête d'Or et c'est prévu dimanche.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La torchère de Fezin et une colonne de fumée noire qui s'échappe dans le ciel. Le dégagement était visible à des kilomètres à la ronde cette nuit. Renseignement pris, il s'agissait d'un dégazage de produits de la raffinerie. Une opération habituelle de sécurité selon les services de Total Energy. De nombreux appels de personnes inquiètes ont abouti chez les pompiers. Le 9 juillet dernier, un incendie sur un transformateur avait déjà semé la pagaille à la raffinerie. Le courant avait été coupé, entraînant l'interruption de l'activité du site et un dégagement de fumée noire important par les torchères. La CGT a appelé à la grève hier les employés de cette même raffinerie de Fezin, exploitée par Total Energy. Le syndicat demandait une hausse des salaires pour compenser l'inflation. Et ce, au lendemain de l'annonce des énormes bénéfices faits par le groupe Total Energy au deuxième trimestre 2022, 5,7 milliards de dollars contre 2,2 milliards au même trimestre 2021. Prévu pour accueillir des mères isolées et leurs enfants en situation d'urgence, le centre d'hébergement d'urgence de Rieux-la-Pape doit fermer le 31 juillet, vous l'aurez compris, c'est dimanche. 16 familles étaient accueillies, soit près de 50 personnes. Il s'agit de mères de famille en situation difficile, la plupart d'origine étrangère et en attente de régularisation de leur situation administrative ou victimes de violences conjugales, ainsi que leurs enfants. La fermeture était prévue depuis le début. Il s'agissait d'un établissement temporaire. Toujours est-il que 6 familles sur les 16 avait hier une solution, entendez par là une redirection vers un autre logement. C'est la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités qui gère les situations d'hébergement d'urgence. La maison de la veille sociale régule les places disponibles. La préfecture du Rhône est responsable de l'application du droit à l'hébergement d'urgence dans le département. Il n'y aura pas de mise à la rue sèche. La volonté est de trouver des solutions pour chacune des familles, promet le préfet. Si jamais au 31 juillet, donc dimanche, certaines familles n'avaient pas de solution, évidemment qu'elles pourrait rester sur place. Fin de citation.
Lyon Demain, histoire lyonnaise.
Bonjour Xavier Ducrest.
Bonjour Gérald.
Directeur France d'Handicap International, Handicap International et Forum Réfugiés qui fêtent ensemble dimanche leurs 40 ans lors d'une nuit de la solidarité. Ça se passera à Fourvière en clôture en quelque sorte des nuits de Fourvière. Rappelez-nous comment est né Handicap International en 1982.
Ce territoire a vu naître Handicap International en 82 comme vous le dites. Créé et fondé par deux médecins, Jean-Baptiste Richardier et Claude Simoneau, et un technicien, Yves Gaumenton. Et tout de suite, ils ont commencé à agir dans une situation d'urgence très complexe. On en vit aujourd'hui à distance par les informations que nous recevons de l'Ukraine, mais aussi de Syrie, du Yémen, de Venezuela, etc., partout dans le monde où se passent des conflits armés. Eh bien, ils étaient là, dans le plus grand camp de réfugiés, le camp de Kaiwidang, sur la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Avoir arrivé pendant la guerre civile, le Khmer, au Cambodge, des hommes, des femmes et des enfants qui avaient été fauchés par les mines. Et dans ce camp, ils ont commencé à les soigner, forcément les amputer malheureusement, et puis du coup, à vouloir les remettre debout pour leur redonner un avenir, une espérance, en fabriquant des prothèses avec ce qu'ils avaient autour d'eux. On dit aujourd'hui innovation frugale, à l'époque c'était plutôt la débrouille pour être poli. Et ils ont trouvé du bois, du bambou, du caoutchouc, du métal. Et ils ont commencé à créer ces propres prothèses-là, extrêmement simplement, et à remettre debout des centaines de milliers de personnes. Ça s'est su à travers le monde, et du coup, ils ont été appelés dans plein de contextes de crise. Alors, des crises humanitaires dues à des catastrophes naturelles ou des conflits armés, pour venir procéder de la même manière partout dans le monde. Et de ces trois créateurs, nous sommes aujourd'hui 4700, dans 61 pays, on intervient dans plus de 430 programmes. Donc, vous voyez, malheureusement pour notre humanité, on a dû croître, et on continue à croître, aspiré par les cris du monde, les drames portés par des populations vulnérables, des personnes handicapées, des gens comme vous et moi, qui subissent malheureusement des crises très graves dans le monde.
Alors, de nombreuses ONG ont vu le jour entre Rouen et Saône dans ces années 80 à Lyon, qui n'étaient pourtant pas les années les plus dynamiques. Qu'est-ce qui explique qu'on ait vu naître ici Forum Réfugiés, Équilibre, Habitat Humanisme et quelques autres?
Je n'ai pas d'explication scientifique, bien entendu, mais nous sommes sur un des territoires en France les plus solides, les plus dynamiques, les plus rassembleurs de la solidarité. Parce que vous avez, depuis toujours, une vision d'un monde économique attentif à la fragilité, accueillant de cette fragilité et de la précarité, et très soucieux de s'occuper non pas seulement, disons, de la manière dont les entreprises sont menées économiquement dans une obligation, de créer de la richesse pour la répartir et puis de grossir, mais aussi de ne laisser personne de côté. Et de faire en sorte que ce territoire puisse vivre de façon un peu paisible, de façon plus tranquille, en ayant avec eux et autour d'eux une population dont ils s'occupent, au-delà simplement du fait ou de la pratique économique, mais bien d'être dans une pratique sociale. C'est globalement une tradition de christianisme social portée par les grands chefs d'entreprise et les hommes politiques.
Comment a évolué Handicap International en 40 ans? Est-ce que vous avez l'impression quand même d'avoir eu des belles victoires? Est-ce que vous avez l'impression d'être écouté, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de déceptions dans vos combats?
Les déceptions, on en a tous les jours, tellement il est compliqué, difficile de porter assistance partout dans le monde. Le principal défi, c'est qu'on a une explosion, sans jeu de mots, des crises humanitaires, une augmentation croissante des problèmes posés au monde, que ce soit avec le réchauffement climatique, donc la violence des tsunamis, la violence des ouragans, la violence des tempêtes, des tremblements de terre, mais aussi la violence des combats qui se battent partout, des populations les unes contre les autres, souvent entre frères. Et ce qui est terrible, c'est de devoir nous-mêmes nous battre et combattre pour obtenir des fonds de manière à agir partout où c'est nécessaire. Et en cela, vous me permettez de remercier infiniment les bénévoles et les donateurs, autant de forums réfugiés que de Handicap International. Et ce concert, en fait, il est un peu fait pour ça, c'est-à-dire qu'on est là pour célébrer avec joie, énergie, dynamisme, cet élan énorme de solidarité et de générosité depuis plus de 40 ans qui nous permet, à Forum Réfugiés et Handicap International, d'être encore là. C'est grâce à eux. Et donc, vraiment les remercier et puis encore les mobiliser, parce que, par rapport à votre question, c'est de leur dire rien n'est fait, rien n'est fini, tout est fragile. Et on le voit bien, aujourd'hui, une situation se retourne en un clin d'œil. Et malheureusement, nous ne serons jamais assez nombreux, nous n'aurons jamais assez de financement pour agir partout dans le monde. Alors, il faut qu'on se dise tous ensemble que oui, nous aider, nous, ONG, c'est fondamental. Mais c'est pas que fondamental pour nous, les personnes que l'on aide. C'est fondamental pour toute la population de notre humanité. On le voit bien, le Covid, c'est parti d'une région de Chine. Ça a eu un impact extraordinaire, infernal, dans tout le monde. Et là, la crise en Ukraine, c'est pareil. Donc, nous sommes tous atteints parce que vivent ces pauvres femmes, hommes, enfants dans le monde qui sont dans une déshérence, dans une pauvreté, dans des conditions absolument déplorables, et qu'il faut absolument nous prendre en compte et aider pour eux et pour nous tous.
Quel est votre combat justement du moment par rapport à ce conflit en Ukraine? C'est quoi? C'est la protection des civils? Vous travaillez, je crois, sur une déclaration, c'est ça, qui pourrait être adoptée par différents pays?
Alors, il y a deux questions dans la vôtre, mais je vais commencer par celle-ci. Vous avez parfaitement raison. Comme vous le savez, on a mené des combats qui ont eu de grands succès grâce à la mobilisation citoyenne. Nous avons signé et fait signer un traité international d'interdiction des mines antipersonnelles entre 97 à Ottawa, et on est prix Nobel de la paix pour ça. Mais quand je dis « on », c'est nous tous qui sommes arrivés. En 2005, on a recommencé pour se battre contre les bombes à sous-munitions. On a fait signer un traité d'interdiction de ces armes absolument indignes. Et aujourd'hui, effectivement, on se bat pour faire cesser le bombardement des civils, et c'est-à-dire tout ce qui est contraire au droit international militaire et aux conventions de Genève. Et là, effectivement, en octobre, à Dublin, on va remporter une victoire. Nous avons déjà plus de 50 États qui se sont engagés à signer cette déclaration politique de respect du droit international militaire et des conventions de Genève, et donc cesser ces pratiques barbares de bombarder les civils en zone peuplée en cas de conflit. Et du coup, à Dublin, on va avoir des États dont, et ça c'est une vraie victoire, la France, UK, etc., mais aussi les États-Unis. Alors oui, il y a des défis, mais oui, comme vous le disiez, il y a des grandes réussites.
Aujourd'hui, Handicap International, vous le disiez tout à l'heure, 4 700 emplois. C'est quoi les métiers aujourd'hui à Handicap International? Est-ce qu'on peut vous rejoindre ou est-ce que c'est un cercle un petit peu fermé? C'est un métier quand même un petit peu particulier, l'humanitaire.
Alors c'est un métier particulier dans ce sens où on est dans des endroits, hein, comme vous pouvez l'imaginer, un petit peu compliqués. Et donc on n'en voit pas effectivement des gens sans avoir passé au crible leurs compétences, leurs capacités. Et bien sûr, on a besoin de métiers différents. Je vais vous prendre comme exemple, pour répondre à votre question précédente, ce que l'on fait en Ukraine. En Ukraine, on y est parti, on a plus de 70 personnes qui sont là-bas. On cherche encore des gens et du personnel pour être là-bas, mais il faut aussi pratiquer un peu la langue, parce que ça devient compliqué. Et du coup, notre rôle essentiel en Ukraine, c'est d'assurer que les besoins des plus vulnérables soient pris en compte. Les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes malades, qui sont en fait toutes considérées plus à risque pour leur santé et leur survie. Mais les métiers, c'est quoi? Ben, on va fournir des soins de rééducation physique et de réadaptation fonctionnelle aux personnes blessées. On apporte du soutien psychologique à des personnes hyper traumatisées. Alors si en plus elles sont en situation de handicap, imaginez ce que ça veut dire. On vient distribuer des kits d'hygiène et des produits non alimentaires à toutes les personnes qui en ont besoin, notamment forcément là aussi les personnes âgées, les personnes handicapées, les bébés, etc. Et puis on fait du stockage, de la distribution. On est aussi, nous, de notre côté, des logisticiens. Il n'y a pas d'aide humanitaire sans logistique. Et puis on vient fournir aussi, c'est important, des guides et des explications aux populations victimes des bombardements pour qu'elles puissent véritablement identifier et se prémunir des dangers liés aux engins explosifs qui n'ont pas explosé. Vous savez, dans une guerre et dans un conflit, après la guerre, pendant la guerre, mais aussi après la guerre, c'est encore la guerre. Il reste des armes non explosées, il reste des mines, il reste des tas de choses, et il est important que les populations puissent être éduquées aux risques permanents qu'ils ont à fréquenter leur propre jardin, leur propre maison. C'est pour ça que, au fond, avec Forum Réfugiés, on est extrêmement complémentaires. Forum Réfugiés s'occupe d'accueillir, de protéger, d'accompagner, de défendre tous ces exilés. Et c'est une association qui accueille et accompagne les réfugiés, défend leurs droits. C'est vrai que, je vous donnais juste un chiffre, près d'un quart des demandeurs d'asile ne disposent pas de conditions matérielles d'accueil. Vous voyez donc, ici et là-bas, on a des actions complémentaires pour que vraiment toutes ces populations, ces personnes, encore une fois, des hommes, des femmes et des enfants comme vous et moi, soient aidés, soit assisté, soit accompagné pour aller vers une plus grande dignité ou simplement se mettre en sécurité pour pouvoir vivre.
Merci à Xavier Ducrest, on l'a compris, Handicap International et Forum Réfugiés qui fêtent ensemble leurs 40 ans et deux entreprises, on va dire, qui sont plus que jamais lyonnaises, hein, qui vont fêter ça dans leur berceau ici à Fourvière, donc dimanche soir.
Merci Gérald. Est-ce que je peux vous rajouter quelque chose?
Oui, bien sûr.
Eh bien, j'invite tous les auditeurs à acheter des places car elles sont à 19 euros aujourd'hui, pour les jeunes à 14 euros. Et puis j'aimerais lancer un rendez-vous dont on reparlera, j'espère. C'est celui, encore pour nos 40 ans, du grand retour de la pyramide de chaussures. C'est la 28e édition, après 2 ans de Covid. Donc rendez-vous le 24 septembre, place Bellecour, pour un grand moment aussi festif, mais un grand moment de mobilisation citoyenne contre le bombardement des civils à la pyramide de chaussures.
Merci Xavier Ducrest, directeur France d'Handicap International. Merci beaucoup.
Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
Les Jeux Olympiques 2024, l'équipe de France féminine jouera à Saint-Étienne et Lyon. Les Bleus disputeront un match de poule à Geoffroy Guichard et 2 au Groupama Stadium. Saint-Étienne aura la chance d'accueillir une rencontre des Bleus le dimanche 28 juillet 2024 à 21h. Tête de série numéro 1, les partenaires de Wendy Renard, éliminés mercredi en demi-finale de l'Euro par l'Allemagne, seront placés dans le groupe A, position 1, lors du tirage au sort. Les Françaises joueront leur premier match jeudi 25 juillet 2024 et le troisième mercredi 31 juillet 2024 au Groupama Stadium. Le Loup perd pour 6 mois son pilier Demba Bamba. L'international français a dû se faire opérer d'une blessure contractée en équipe de France. Le Loup devrait engager un joker médical pour remplacer son joueur qui s'était blessé au cartilage lors de la tournée du 15 de France au Japon au début du mois de juillet. Les Lyonnais et leur nouvel entraîneur Xavier Garbajosa retrouveront la compétition le premier week-end de septembre contre Brive. Un pique-nique géant pour les célibataires est prévu ce dimanche au Parc de la Tête d'Or. En 2021, cet événement avait rassemblé plus de 500 personnes. L'association Amitié et Loisirs Entre Nous est à l'origine de cette initiative estivale chaque été. Cet événement annuel est gratuit, c'est ouvert à tous. Il suffit de venir avec son panier pique-nique, seul ou en compagnie d'autres amis célibataires. Le rendez-vous est fixé à midi, dimanche, sur la pelouse du Monument des Droits de l'Homme. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, dès lundi, pour une nouvelle édition.